deux visages de Dieu se dégagent de cette prophétie de Jérémie à Baruch. D'un côté, le visage d'un Dieu qui juge d'en haut, dont la justice est terrible, sans concession, une parole qui s'abat sur le monde comme un verdict juste et sans appel. Et de l'autre, le visage d'un Dieu qui prend soin de son enfant au plus fort de la tempête. Un Dieu qui protège, qui met à part. Et je crois qu'il n'y a pas à choisir le visage du Dieu qui nous arrange. Il y a des chrétiens, je peux l'être même moi-même à certains moments, il y a des chrétiens qui n'ont que les mots de jugement, de bien et de mal, de fidélité, d'orthodoxie, de rétribution à la bouche. Et il y a ceux, à l'inverse, qui n'ont Dieu que pour le Dieu de la grâce. Ah, alors là, tout amour, tout pardon, un Dieu gros nounours gentil, incapable de condamner, de bousculer, de s'opposer à quoi que ce soit. Je crois au contraire que ces deux visages de Dieu sont indissociables et qu'ils sont associés ici, dans cette parole, pour nous faire réfléchir sur notre vie et sur notre relation avec ce Dieu juge et ami que la Bible révèle. Je crois que la prophétie qui est destinée à Baruch veut nous confronter à cette tension du Dieu aux deux visages. Le premier visage est donc celui d'un Dieu qui juge. Le Dieu juge, un Dieu qui n'entend pas laisser le mal faire tout le mal qu'il voudrait. Un Dieu qui n'entend pas baisser les yeux devant le regard arrogant d'une humanité pleine de son sentiment de toute puissance, dont l'orgueil et la violence pourraient s'exprimer comme ça, en toute impunité, sans que rien ne vienne contrarier ses plans. Et aujourd'hui, pour l'humanité du XXIe siècle, ce jugement résonne de façon très, très spéciale. L'Occident, qui se croyait parvenu au sommet de sa gloire, maître de la vie et presque maître de la mort, se rend compte que beaucoup de choses lui échappent en réalité. Un petit virus, et voilà que la conscience d'être peu de choses ressurgit. L'Occident et son sacrement démocratique, très convaincu d'avoir établi sur la terre le paradis, d'avoir réglé tous les problèmes du vivre et du décider ensemble. Ce modèle, aujourd'hui, semble très fragilisé. Et il y a d'autres modèles, d'autres contre-modèles qui, très populistes, totalitaires, violents, qui viennent séduire les foules et les intellectuels avec des discours de haine, des discours qui ne prennent même plus la peine de se dissimuler. Et la guerre, notre Occident pensait l'avoir vaincue à tout jamais. Elle enlève une centaine de vies par jour à 3700 km de Pessac, à l'est. L'Occident est aujourd'hui dépassé par sa propre voracité, son obsession de posséder, de consommer, sans limite. Cette voracité est pour grande part cause du dérèglement climatique. Alors oui, d'une certaine manière, on peut dire que Dieu juge ce que nous avons fait de cette terre. Dieu met en crise le monde dont nous pensions être les maîtres. Et ce monde nous échappe, et ça fait peur, et ça fait mal. Un sentiment de découragement s'installe, remettant en question non seulement les grands projets collectifs, mais encore les petits projets personnels. Regardez, je rencontre de plus en plus de jeunes couples qui décident de ne pas faire d'enfants, par peur, disent-ils, d'être responsables de souffrances à venir, souffrances pour leurs enfants, qu'ils ne vont pas faire. Et c'est un cas assez emblématique du découragement de notre temps. Comme Baruch, oui, nous avons de bonnes raisons d'être abattus, découragés, inquiets. Parce que comme lui, ce que nous sommes appelés à dire au monde aujourd'hui, c'est que Dieu n'aime pas ce que nous sommes en train de faire de notre planète, de nos vies, de notre humanité. Nous sommes appelés à dire au monde que Dieu juge cette arrogance mortifère et qu'il la juge de manière radicale. Il lui dit non. Dieu s'oppose à nous. Et j'avoue que ce message n'est pas la meilleure manière pour remplir les églises et se faire des amis, c'est certain. Et puis il y a l'autre visage de Dieu. Celui que Jérémie vient annoncer à Baruch. Le Dieu qui s'abaisse, qui prend son temps pour s'asseoir à côté de celui qui est au bord de la route, abattu, découragé. Le Dieu qui se fait proche de Baruch, qui ne l'abandonne pas à son burn-out, à sa dépression, à son découragement. Le Dieu de Baruch est un Dieu protecteur, plein d'amour. Voilà le Dieu de la Bible. Au milieu du chaos, au milieu des tempêtes, des tremblements de terre, il vient tenir la main d'un enfant et le sortir des décombres. Il empêche que le mal puisse faire tout le mal qu'il voudrait. Et ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi il ne l'a pas fait pour 20 ou 30 000 autres disparus. Je n'ai pas de réponse. Mais ce que j'observe, c'est que les pages les plus sombres de l'histoire humaine, les chaos les plus dévastateurs, n'ont jamais eu raison de notre humanité, n'ont pas eu le dernier mot. À Auschwitz, à Donetsk, à Idlib, comme à Antioche, à Jordine, en Palestine et à Jérusalem, en Israël, partout où la haine semble gagner la partie, partout où la mort frappe, il y a toujours un signe de la grâce à saisir, à découvrir. Dieu ne laisse jamais le mal triompher totalement. Il trouve toujours un Baruch à consoler, à relever. Notez bien que Dieu n'approche pas de Baruch avec empathie et bienveillance. J'en ai un peu marre de ces mots. Je ne sais pas vous, mais pas du tout. Alors que Baruch se plaint de son sort, hein, « Pauvre de moi !» Dieu l'interpelle. Je reformule à ma manière, mais Baruch, tu vois les choses à ta manière. Ton imaginaire te tient et t'impose une vision déprimante des choses, de la justice, du bien, du mal, de la rétribution. Eh bien, sache que moi, je suis le Dieu qui démolit ce qu'il a bâti et qui déracine ce qu'il a planté. Autrement dit, je suis le Dieu qui déroute ceux qui croient en lui. Le Dieu qui surprend. Le Dieu qui est là où on ne l'attend pas. Qui fait une chose et son contraire. Qui fait du neuf avec du vieux dans l'histoire des hommes. Là où tout semble mort. Il fait du neuf, même si cette nouveauté peut paraître aux yeux des hommes absurde, incompréhensible. Ce que Dieu dit à Baruch, par la bouche de Jérémie, je le reformulerai encore comme ça. Tes évidences ne sont pas les miennes, Baruch. Mais une chose est sûre, ta vie a du prix à mes yeux. Au verset 5, tu auras la vie sauve partout où tu iras. Voilà la bonne nouvelle que Dieu annonce à Baruch. Cette bonne nouvelle dont nous sommes nous aussi porteurs pour ce monde qui s'effondre sur lui-même. Et nous disons à ce monde, en tant que prophétesse et prophète, nous disons, nous ne savons rien de l'avenir de notre monde. Nous ne savons pas si nos projets aboutiront. Ce que nous voyons, c'est un monde en train de devenir fou. Un monde qui se place lui-même sous la menace du jugement. Et nous sommes incapables de dire quelles en seront les conséquences. Mais ce que nous savons, c'est qu'au cœur de ces épreuves, au milieu des tirs de roquettes, sous les gravats d'un immeuble effondré, notre Dieu prend soin de celles et ceux qui font confiance en lui, qui l'appellent, et qui posent, contre toute logique, un acte de foi. La bonne nouvelle, c'est que dans ce chaos innommable qu'est notre monde, Dieu m'appelle par mon nom. La bonne nouvelle, c'est que la prophétie de Dieu m'apprend à voir le monde tel qu'il est, à discerner ses pièges, ses mensonges, à avertir ses responsables quand ils agissent pour leur propre intérêt, sans se soucier du bien commun. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu m'appelle à devenir un citoyen responsable, engagé et lucide. Mais la grande et vraie bonne nouvelle de cette prophétie, c'est que je suis Baruch. Que tu es Baruch, ma sœur, mon frère. Baruch, en hébreu, ça veut dire béni. Le béni. À nous d'apprendre à découvrir, à saisir cette bénédiction au creux des moments les plus éprouvants de notre vie. Mon collègue Philippe de Paul, dont j'ai encore des traces ici sur cette chaire, nous gratifiait dimanche dernier d'une très belle citation de Jacques Ellul sur le sel et la lumière du monde. Et j'aimerais vous partager une autre citation d'un théologien, un philosophe nommé Søren Kierkegaard. Et cette parole a été écrite au milieu du XIXe siècle, avant même la Première Guerre mondiale. Et elle résonne d'une manière incroyable avec cette parole de Jérémie 45. Et Kierkegaard oppose deux points de vue sur Dieu. Celui qu'il appelle le point de vue païen et le point de vue chrétien. Je cite. Je cite avec un ou deux petits arrangements parce que c'est un langage qui était un petit peu bon. Pour le païen, les futilités du monde sont bien trop peu de choses pour que Dieu s'en préoccupe. Un homme isolé ne l'intéresse pas. Ce sont les destinées des peuples qui le mobilisent, pas ma petite personne. Pour le chrétien, au contraire, Dieu est une majesté tellement infinie que rien ne saurait en soi le préoccuper. Sinon, pour autant que cela plaise à sa majesté. Ainsi, La dernière des futilités peut retenir son attention. S'il éclatait une guerre, non seulement européenne, mais une guerre où l'Europe entrerait en conflit avec l'Asie, et où l'Afrique, l'Amérique et l'Australie seraient obligées de participer, cela n'intéresserait absolument pas Dieu. Mais qu'un pauvre homme lui adresse ses soupirs, voilà ce qui le préoccupe. Car tel est le bon plaisir de sa majesté. Il se laisse toucher au plus profond de sa personne. Jusqu'ici, la citation de Kierkegaard. Voilà, sœurs et frères, le Dieu dont nous sommes le peuple, le berger de l'Église en qui nous plaçons notre confiance. S'il vient comme un juge, s'il nous met en crise, c'est pour qu'au plus fort de cette crise naisse une personne qui se découvre fragile, conduite et sauvée dans le tourbillon qui l'emporte. Et on peut traduire ça dans le langage du Nouveau Testament. Ce que nous savons, c'est qu'en Christ, Dieu s'est approché de nous. Il s'est arrêté sur nos chemins de vie. Il s'est fait compagnon de nos routes. Peu nous importe finalement les menaces du présent. Peu importe les incertitudes à venir, l'effondrement général, la fin et le jugement dernier, parce que ce qui est décisif pour chacun de nous ce matin, et peut-être aussi pour notre vieux monde, c'est de se découvrir accompagné de la présence de Dieu. Voilà la bonne nouvelle qu'il nous faut plus que jamais, comme Baruch, retrouver et serrer sur notre cœur et proclamer avec force. Il n'y a pas de vérité universelle, indiscutable sur l'histoire, sur la destinée des peuples du monde. Nous ne sommes pas plus clairvoyants que les autres pour comprendre, Bible en main, comment les choses vont tourner. Non ! Notre seule force, notre singularité, c'est de croire à la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Elle est adressée personnellement à chacune, à chacun. Sa puissance peut illuminer nos vies, apaiser nos cœurs et nous envoyer faire de nous des compagnons de route de toutes celles et ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors, sœurs et frères, allons nos chemins comme des baruchs, des bénis, pleins de cette seule certitude que Dieu est là, qu'il nous sauve en Jésus-Christ. Amen.